qu'on parlait des quatre félicités. C'est intéressant d'en parler aussi pour le Kapala, parce que c'est la base, le projet, le but du Kapala, quel que soit le Tantra, c'est traverser ces quatre félicités. Donc on l'a aussi dans Tcheu, on travaille beaucoup le Kapala, hein, d'accord, avec nos propres corps, nos propres organes, etc. On l'a dans le corps d'Umshog, dans toutes les pratiques, Anuttara Yoga Tantra, etc. Kapala, c'est associé à Torma. Donc là, on fait la pratique de Mahakala, prière condensée, avec Torma. Et la Torma, c'est le Kapala. Même si sur l'autel, c'est pas un Kapala, sous la forme d'un crâne, c'est des fois une petite Torma en farine, etc. Mais l'essence du Kapala, c'est la Torma. Et l'essence de la Torma, c'est le Kapala. Torma, ça a le sens de distribuer dans l'attitude d'une mère. Ma, c'est mère, et Tor. Tor, vrai sens de Tor, c'est jeter. Mais je donne l'image des distributeurs de journaux aux États-Unis. Ils jettent au loin pour arriver à atteindre le seuil. Mais c'est pas jeter comme on jetterait des choses à la poubelle ou chez Emmaüs. C'est pas se débarrasser. C'est dans l'attitude d'une mère. C'est-à-dire, je dépose, mais c'est pas pour reprendre. C'est vraiment un abandon. Et par l'abandon, il y a l'abondance. C'est ça le sens de Torma. Plus on abandonne nos namtok, et c'est ça le sens du Kapala aussi, hein, dépasser nos discriminations, on offre de l'urine, du caca, machin, etc. On offre nos organes, le foie, le cœur, machin, etc. Ou les cinq viandes, si on veut, le cheval, tout ça. Le mot tos, c'est un peu comme le tong de Tonglen. C'est vraiment un abandon, un don. C'est vraiment la paramita du don. Et ça se fait avec le plaisir. C'est pas quelque chose qui est pas beau, je vais le donner à Emmaüs. Moi, je m'en sers pas, mais bon, ça peut servir à quelqu'un. C'est méprisant, mais des fois, on le fait comme ça. C'est pas ce type d'abandon. Et donc, pour arriver à cette capacité sublime de l'excellence du don, la paramita du don, ben, il faut connaître le plaisir de ce qu'on donne, avoir joui soi-même de ce qu'on donne. On fait torma quand on donne le meilleur du pâté à son chat ou à son chien. On n'en mangerait pas nous-mêmes. Mais on sent le pâté, oh, il est bon, et puis on se dit, tu vas te régaler, etc. Vous voyez, on fait torma. Ou quand on a goûté un vin, il est super bon ce vin, on donne un vin, mais on l'a bu, il faudrait que je lui offre ce vin. Vous voyez ? D'accord ? Et une fois qu'il est offert, vous avez fait torma. Goûte-moi ça. Non, mais tu le boiras quand tu seras tout seul. Vous voyez, torma. Non, me dis pas merci, ça me fait plaisir. Avec plaisir. Alors souvent, on a le réflexe de dire, non, mais c'est rien. On s'exprime vite, non, c'est rien. Ah bon ? Bah, tu reprends-le alors. Non, mais prends ta pâté, ça me fait plaisir de te voir régaler de quelque chose que je ne mangerai pas du tout. Ah, mais quand même, ça me fait plaisir. Oui, hein, oui. Mais avec le vin, c'est un meilleur exemple, je crois. Ou un bouquin, voilà, c'est ce qu'on fait. On fait constamment des tormas. Donc, il faut déjà goûter, jouir de ce qu'on offre. Et après, ça pourra devenir torma. Donc ici, bien sûr, avec le Kapala, on offre, mais pour arriver à dépasser les namtok, on propose des aspects qui, à l'ordinaire, dans nos namtok, nos élaborations ordinaires, vulgaires, n'est pas reluisant. Et ça, c'est le style provoque pour voir nos namtok. Après, il ne faut pas être stupide pour boire son urine, son caca, ou peut-être, pourquoi pas, mais pas par provocation, par ici d'arriver à une libération en se forçant de goûter ces substances non plus. C'est pas ça. On cherche à voir nos tok, nos namtok. Et s'en libérer, ça ne veut pas dire qu'on va manger notre caca non plus.
Est-ce qu'on peut rapprocher du mandala qui vient du Bouddha, comme il y a les éléments minimes?
Oui, bien sûr.
Ouais.
Oui, les cinq substances, les viandes, c'est les substances. C'est associé aux cinq agrégats, donc aux cinq Dhyani Bouddha, Yab, Père. Les cinq liquides sont associés aux cinq éléments, donc aux cinq Dhyani Bouddha, Mère. Et c'est cette combinaison qui crée les cinq intelligences. L'intelligence qu'on appelle semblable au miroir. Donc l'esprit a une intelligence de clarté immédiate, instantanée, parce que justement, coémergence du phénomène et de la connaissance. Donc il y a concept, co-émergent, et en toute loisibilité. L'imputation n'est pas encore là. D'accord ? On est dans l'immaculée conception, si j'ose dire. D'accord ? Et ça, c'est la première des intelligences en fonctionnement, d'accord, qu'on appelle semblable au miroir. C'est-à-dire cet aspect d'instantanéité, de fidélisation. C'est-à-dire, c'est pas tronqué, le phénomène qui apparaît, c'est pas tronqué en tant que tel. Donc après, les cinq intelligences, donc l'autre avec l'intelligence Rapna, c'est l'équanimité. Donc là, effectivement, il n'y a plus de discrimination. En équanimité, on laisse voir. Comme l'équanimité biblique. Il y a lumière, par les justes, et après, discernement. C'est après qu'il y a discernement, c'est-à-dire, dans la Bible, par métaphore, on dit la séparation de la terre et de l'eau. Deux éléments sur lesquels on peut intervenir causalement. Donc par le discernement. Tu fais un discernement, un lien de cause à effet, de bon à mauvais, vertueux, non vertueux, toi, etc. Donc tu as un arbitrage qui te permet d'intervenir, plus ou moins habilement. Mais là, l'esprit a cette qualité de discernement sur la base d'une équanimité. Avant de faire le procès d'une âme toque et de passer en discrimination, ou de demander au phénomène s'il est bon ou pas bon, comme dans le péché originel, non, on attend. Finalement, le discernement est naturel. Il y aura une intelligence discernante, naturelle. Il n'y a pas besoin de précipiter ou d'appréhender, d'anticiper ce qu'on appelle l'espoir crainte. D'accord ? Laissons venir. Et très naturellement, on aura nos répulsions. Très naturellement, on aura un élan. On appelle désir, très naturellement. Mais pas sous l'effet de la discrimination. Et des schémas préétablis, accumulés depuis des temps sans commencement. Donc le discernement, et ensuite la sagesse, qu'on appelle tout accomplissante, l'intelligence de l'esprit, tout accomplissante. C'est pas tout à fait tout accomplissant comme on l'entendrait, le mec qui sait tout faire, etc. Il a la réponse à tout, c'est pas ça. Ça veut dire qu'il est censé. En tibétain, c'est dun yeu. Dun, c'est du sens, yeu, il y a. Donc c'est pas le super pouvoir. Il n'y a pas lieu d'obstacle. Tout est censé, dans une justesse du moment. Tout est censé, et c'est un sens aussi de l'à propos. L'à propos, ça renvoie au dieu grec Kéros, qui est un des représentations du temps. Il y a Chronos, Kéros, et puis je ne sais plus qui. Et Kéros, c'est un terme en thérapie aussi maintenant. C'est-à-dire l'opportunité. Tu sais, quand on sent par le discernement, c'est le moment de dire quelque chose. C'est approprié. Vous voyez, cette sagesse tout accomplissante, on en fait tout un plat, c'est simplement le sens du propos. Et des fois, on s'écoute, et puis on sent le feeling, oh, il y a un petit créneau là pour lui parler de quelque chose. C'est Kéros. Il y a maintenant en médecine aussi, le sens opportun pour une posologie, enfin, un médicament, qui aura son efficacité opportune. Voilà. C'est dans ce sens-là qu'il faut entendre cette intelligence. Et bien, on a une intelligence qu'on pourrait dire intuitif, sensé, à propos, opportun. J'aime bien mettre le mot opportun, qui amène à bon port. Parce qu'on a vraiment, là, vraiment un âme toque sur cette sagesse tout accomplissante, le grand gourou qui sait tout faire, tac, tac, etc. Il a des pouvoirs magiques, etc. Avec Mahakala, il te détruit les ennemis, avec des armes, il y a des armes aussi, hein. Quand on rentre dans une crypte Mahakala Chalupa, c'est impressionnant. Hein. Il y a des crânes partout et puis des armes. Hein. Des arbalètes, des lances, machin, etc. Mais il faut bien comprendre, c'est sur nos Namtok, bien sûr. Donc les cinq substances, les cinq liquides, la fusion donne les cinq intelligences. Et ces cinq intelligences, comment on y accède ? Pas la réalisation de la vacuité. Et on aura cette félicité coémergeant à la vacuité, on appelle la quatrième félicité. De, donc, de, dewa, félicité, comme dans de wachel. De, donc, vide. Vide, félicité. Et ça, c'est Verocana, c'est-à-dire la famille Bouddha. Donc, soit on arrive à capter, on a jouissance de ces cinq intelligences, au-delà de toute discrétion, au-delà de tout, d'accord, des peurs, machin, etc. On a jouissance et on obtient Bouddha. Soit on obtient Bouddha et on a ses jouissances. Mais à un moment, l'un ne va pas sans l'autre. Donc, le Kapala, c'est une proposition où on va apprendre à jouir sans discrimination. Jouir, c'est faire usage d'intelligence. D'accord ? Et à un moment, on y arrivera, on accède. Et si on accède, on accède à Verocana. L'intelligence même de la vacuité. La réalisation du dharmata, c'est-à-dire la réalisation du phénomène tel quel, sans nos namtok, sans nos élaborations mentales. Donc on parle de quatre félicités, il faut en entendre parler, c'est important. Dès lors qu'on aborde des tantras comme l'Anuttara Yoga Tantra, les trois premières sont des félicités caractérisées. Et la quatrième, c'est la nature même de la vacuité. Les trois premières sont suite aux bons accomplissements d'une méthode qui aboutit à une expérience qu'on appelle félicité. Mais comme dans les quatre garanties que propose le Bouddha, à toute expérience, on fait venir la vue de la vacuité, soit par l'usage de prajna, shirab, ou par l'usage de yeshe, la sagesse primordiale, pour les plus doués. Et toujours faire intervenir la vue de la vacuité à toute expérience. Si cette expérience est une expérience de félicité, on y adjoint la vue de la vacuité, pas s'en tenir à une expérience. Toute expérience est basée sur une discrimination. Le voile de la discrimination est toujours là. Donc ça ne peut pas être l'éveil. Et si on meurt en ayant eu des expériences de félicité, c'est pas indélébile dans les sous de sagesse. C'est-à-dire, ça ne va pas se traduire par de l'inné dans une prochaine vie, ça va se traduire par des schémas de saisie. Parce qu'on a goûté à ça, voilà, etc. Si on a une saisie à ses félicités, c'est aussi une porte d'accès à des renaissances dans des mondes des dieux, monde des dieux du désir. Monde du Dieu sans forme, monde de Dieu avec forme. C'est-à-dire avec l'agrégat forme, c'est une perception de sa corporalité. J'ai jamais trouvé de nom qui définit ces trois félicités. Alors j'essaye tant bien que mal, parce que c'est intéressant de les apercevoir, de savoir les repérer en quelque sorte. Donc la première félicité, elle est associée à une libération du chakra d'émanation, nirvana, chakra.
Mais elle n'a pas un nom, cette première félicité?
Je ne connais pas, c'est ce que je viens de dire.
D'accord, c'est ça.
Voilà, donc j'essaye de vous expliquer par expérience, ça vaut ce que ça vaut. Il faut toujours minimiser la transmission d'une expérience. Moi, je donne par expérience ce que j'appellerais la première félicité. Mmh. Et j'ai toujours parlé comme ça à Milama, et puis après, il confirme ou ne confirme pas. Parce que tu as une expérience, après tu dis... Ce ne serait pas ça qu'on appelle Nirmanakaya. Puis le lama dit oui, dans le d'après les thèses, oui, ou alors s'il a une expérience lui-même, oui, c'est ça. Mais on n'a pas une expérience, pouf, qui s'affiche avec le post-it Nirmanakaya. Non, tu as une expérience, et après tu poses la question, c'est pas ça qu'on appelle ça. C'est pas ça qu'on appelle la vacuité de l'objet, voilà, etc. C'est comme ça qu'on parle au lama. On parle d'une expérience, et après il y a confirmation ou pas. D'accord ? Donc au niveau de ce chakra, hein, donc. Avec le Tummo, c'est très bien, en fait. La montée des trois félicités jusqu'au quatrième félicité au sommet du crâne. Et la première, c'est cette libération, toute la zone intestinale de l'esprit, pour faire un jeu, une métaphore. Des fois, on parle du premier cerveau. Moi, je place un premier cerveau dans la culotte, au chakra du bas, qui n'est pas un chakra, mais bon, c'est juste un anti-retour, enfin une valve de protection. Mais le chakra épicurien, par excellence, d'accord, c'est le moment de content, le sentiment de contentement, au bon sens du terme. Le content, ça frise des fois la résignation, la complaisance. T'es content de toi? Ou content de toi du boulot que t'as? Le monde capitaliste aimerait bien qu'on soit content. Il ne s'agit pas du contentement dans ce sens-là, mais comblé, content. Une sorte de satiété qu'on trouve des fois arrivé à un moment du repas. C'est pour ça que je parle d'épicurien. Mais ce n'est pas pour Épicure, parce que ça n'a rien à voir avec Épicure lui-même, hein, au sens vulgaire du mot épicurien. Comment on peut dire rabelaisien, peut-être, vous voyez. Oui, comblé, content. Et le corps, quand on mange, on a cet aspect-là. Où on peut se sentir rassasié. Donc il y a un apaisement de la soif. Donc il y aura un sentiment de paix, apaisement de la soif. Mais ce n'est pas encore nirvana, parce que la soif, on s'en tient juste à une satisfaction. C'est on a fait en sorte de satiété. Mais ça prend un temps. Et c'est un peu comme notre esprit qui, finalement, aurait la part belle dans les intestins, là, etc. Il n'y a plus qu'à digérer. De Mahamudra Non. On passe tout de suite à la vacuité avec le Mahamudra. C'est quatre yogas qui sont des unions avec la vue de la vacuité. L'expérience de coémergence de apparence vide brûle les trois premières étapes, les trois expériences de félicité caractérisée. Il n'y a pas lieu. Par contre, vous pouvez les croiser, d'accord ? Mais ce n'est pas l'objet. D'accord ? Et Mahamudra, on s'occupe tout de suite de la vacuité. Après, bien sûr, le temps d'y arriver, on peut rencontrer des expériences de toutes sortes, dont les trois félicités. Mais les quatre yogas du Mahamudra n'illustre pas ces trois félicités. C'est tout de suite des expériences de coémergence, de vacuité et quelque chose. Donc la première félicité, je l'entends comme ça. D'accord ? Content. Et on peut rester sur ses lauriers, c'est ça le problème. Parce que si on n'est pas bouddhique, c'est-à-dire candidat à l'éveil, eh ben on peut se dire, ça y est, je suis arrivé. D'accord ? Et c'est là le premier obstacle, un des obstacles, où justement, par exemple, les mahakalas sont nécessaires. Ensuite, dans les purifications graduelles de tout mot, on va chatouiller un peu cette zone du cœur. Et là, c'est notre félicité. Alors je dis bien, on peut s'éveiller sans avoir expérience de félicité. On peut s'éveiller à la vacuité sans avoir jamais d'expérience. Et c'est ça le projet. On s'en fout de l'expérience. Mais s'il y a expérience, c'est ça. S'il y a expérience, il faut d'abord savoir les discerner, des expériences vertueuses, non vertueuses, des expériences contaminées d'espoir craint, machin, etc., du gros délire, en général c'est spectaculaire, et des expériences valides. Ça veut dire que les efforts de la méditation font leur effet. Mais c'est juste une étape, voilà. Et toujours, cette garantie du Bouddha Sakyamuni, la quatrième garantie qui est essentielle pour un bouddhiste, si on se veut bouddhiste au sens disciple de l'enseignement de Sakyamuni, c'est à toute expérience joindre, unifier, yoga, la vacuité, pour qu'il y ait un aboutissement réel de ce qu'on appelle l'éveil, au sens bouddhique. Donc au cœur, c'est une sorte de nettoyage aussi. Un nettoyage, donc pas pour rendre plus propre, non, pour voir qu'il y a une grande perfection depuis les temps sans commencement, une nature immaculée depuis les temps sans commencement. Ce n'est pas un nettoyage au sens de passer les choses à l'eau de Javel, ce serait encore une discrimination. Mais dissiper les doutes, dissiper les illusions, dissiper le voile, c'est découvrir. Donc découvrir une part de nous fait toujours une expérience de félicité. Ici, le chakra du cœur, le dharma chakra, de la réalité du dharmata, cette zone-là, émotionnellement, c'est les zones où on enfouit les peurs. C'est nos coffres forts, notre morgue, c'est tout ce qu'on met sous le tapis, on essaye tant bien que mal de mettre une bonne chape de plomb, etc. Donc c'est tout ce qui va faire subconscient. par la force de la discrimination, on va scléroser, cloisonner notre connaissance, notre être même. Tout est cloisonné. Et là, le nettoyage, c'est un décloisonnement. On vit dans un 5 mètres carrés, mais derrière, c'est des cloisons de papier, enfin de nappe top. Il y aurait juste à pousser de la main, voilà. Mais non, on ne le fait pas. Parce qu'on a peur. Comme un enfant, il dit, derrière le placard, il y a quelque chose. J'y vais pas. Puis à un moment, on ouvre, puis on découvre, bah, non, c'était une construction, cette peur, vous voyez. Mais on en a plein des cloisonnements comme ça. C'est un film absurde, conçu par nous-mêmes, par nos namtok. Donc, dès qu'il y a un décloisonnement, on sent un soulagement. C'est cette félicité, sentir avoir décloisonné une partie de sa vie. Pour certains, c'est, ah, oh, j'ai commencé à fréquenter des pauvres. Ah, oh, c'est sympa les pauvres. J'imagine. Ou inversement, un pauvre qui fréquente des riches. C'est insoutenable pour certains de fréquenter des riches, hein, parce que c'est les mauvais, les méchants. Quoi. Enfin, je montre des clichés discriminants, là, clés en main. Quoi. Et donc, on décloisonne nos fréquentations, des fois. Voilà, on décloisonne nos schémas, etc. Et bien, il y a découverte. Et on se découvre. D'accord ? On se croyait psychorigide, on se découvre tolérant. Mais finalement, ils sont pas si bêtes, ces riches. Mais au fait, ils sont généreux. Hein, vous voyez ce cliché ? C'est un exemple de scénario. Hein, d'accord ? Mais voilà, quand on ouvre un chakra, enfin si on l'allège, hein, et ben ça se répercute dans notre vie, heureusement. Et on se découvre. C'est comme ça qu'on se découvre. Mais finalement, je pensais avoir peur. Mais non. D'accord ? Tu fais un quartier de Français dans Shanghai, tu auras de la violence. C'est une congression, comment on peut dire. Donc ici, ce cœur-là, c'est un décloisonnement. Finalement, on a des coffres forts, on ouvre nos coffres forts. Compte en Suisse, on les ouvre, quitte à payer des impôts. Parce qu'on paye un peu de sa personne quand on se découvre. Voilà, il y a une félicité. Mais on sait que c'est bon. D'accord ? C'est un bon, on gagne en liberté. On se découvre une part de nous-mêmes qu'on n'envisageait peut-être pas, vous voyez. Et puis le troisième chakra, au niveau de la gorge, le Sambhoka chakra, c'est le chakra du discernement, par excellence. Jouir d'intelligence. J'ai trouvé mon logiciel qu'on appelle l'intelligence. Je peux en faire usage. Le Sambhoka, ça veut dire faire usage d'une magie, si vous voulez. Faire usage de joyaux, de cadeaux. Ici, la gorge, c'est un peu comme un robinet. Normalement, ce robinet devrait être thermostatique, donc faire discernement, thermostat, tempérance. Donc on fait usage d'intelligence qui est la raison, le discernement, la nuance, l'analyse, etc. C'est associé à Amitabha, c'est le chakra de l'intellect. C'est là aussi où on médite Manjushri, enfin, toutes ces choses-là. Cette gorge, c'est comme le centre d'un robinet thermostatique. Mais cette gorge, elle peut être entartrée ou jamais utilisée. Il est bloqué en haut, sur le chaud, à 70 degrés, plein de tartre. Donc il faut mettre un peu de vinaigre, il faut détartrer, etc., etc. Et là, on va détartrer ici. Et ce qui est intéressant, c'est que ici, c'est l'endroit où s'exprime le verbe articulé, articulation robinet. Le verbe premier, primordial, il est dans le chakra, le premier chakra, enfin, qui n'est pas un chakra, c'est le plancher pelvien. Des kyung qui protègent notre félicité, justement. C'est-à-dire qu'on ne pourra jamais perdre notre félicité. Même en enfer, c'est jamais en deçà de nous-mêmes. C'est un chakra où on ne peut pas être en deçà de nous-mêmes. Et donc, on protège notre félicité inhérente. Des kyung, kyung protecteur, mahakala. Mais on s'en sert juste pour propulseur. Après, on se charge des quatre autres chakras, des quatre félicités. Ici, la gorge, c'est une félicité, pas une félicité de savoir qu'on a des outils, il suffit d'en faire un usage. Et que tout est de notre ressort, il suffit de raisonner. Donc c'est une félicité intéressante. Il peut y avoir des choses qui nous arrivent de difficiles, on amène ce discernement, etc. Puis finalement, on s'aperçoit que tout mal a un bien, on dit comme ça, l'expression. Voilà, bénéfice, on va dire. Et ça, c'est propre de la capacité propre de l'homo sapiens, la sapience, raison. Faire la part des choses, bien sûr, c'est douloureux, mais par la raison, cette douleur va être un enseignement. Donc ça donne le sentiment de libre arbitre. On est libre et tout dépend d'un arbitrage, de quel arbitrage je vais utiliser pour discerner. Si je prends l'arbitrage, je souffle, le monde est méchant, mon arbitrage c'est moi. Au centre de tout, on va être dans l'arbitrage que tout m'est dû pour être heureux et tout ce qui ne me rend pas heureux est mauvais. C'est l'égoïsme. Donc le verbe articulé va être très binaire, on va le sentir même dans le langage de la personne. Le verbe articulé trahit le verbe primordial, le verbe premier qui est au plancher pelvien, le karma, l'activité. Et ensuite, en passant par le centre du crâne, le chakra du centre du crâne, on va, justement par la force de ce discernement, on tempère les choses. D'accord ? Et si on tempère, la raison, la rationalité, au bon sens du terme, faire ratio, discerner, analyser, on a la bonne température pour s'ouvrir à la grâce. Jinlap, qu'on traduit par bénédiction. Jinlap. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit, on dit bénir le kapala. On ne bénit pas, on consacre le kapala à être ce qu'on veut faire. Et seulement, il y aura jinlap après. D'accord ? Donc, il y a le jinlap du chemin, de la méthode, et le jinlap du fruit. C'est toujours partagé comme ça dans les pratiques. On met en chemin, on met en branle une méthodologie, on s'investit de ce qui doit être fait avec cette méthode, et ensuite on a le fruit. Pour la vue de la vacuité, c'est pareil. On a la vue de la base, c'est-à-dire la théorie, on nous enseigne la vue de la vacuité. Ensuite, la vue du chemin qu'on associe avec ce qu'on appelle la méditation, c'est-à-dire on met en application avec une méthode qu'on appelle méditation. D'accord ? Et ensuite, on l'associe, la vue de la vacuité, on l'associe avec faire usage dans l'intercession. Jinlap, c'est pareil. Il y a un jinlap du chemin. Alors, on consacre, on essaye tant bien que mal de se convaincre que ce petit kapala est l'immense kapala de torma, hein, de jouissance, etc. Mais c'est intéressant d'avoir une confrontation de méthodes pour voir si on investit une bonne intelligence. Donc le jinlap, on consacre, c'est pas bénir. Et ensuite, quelque chose va nous consacrer à nous-mêmes. Alors moi, je préfère dire grâce, d'accord, qui renvoie à gratitude. Donc on l'a vu aussi avec le yoga des cinq éléments, enfin vous ne l'avez peut-être pas fait au complet. Ici, ce chakra-là, c'est le siège de l'agrégat perception-intellect, de l'entendement et l'élément feu. Donc là, on va avoir une tempérance, une intelligence de tempérance, et finalement, au centre du crâne, on a ce qui est associé à l'élément eau, en sens du continuum, continuité, dans le yoga des cinq éléments. Et si le feu est à la bonne température, on a l'eau propice à être une grâce. Sur la Terre, c'est l'eau liquide. L'eau liquide donne la viabilité, viable, vie. Donc ça va s'écouler sous forme de grâce. C'est un sentiment d'écoulement. Alors, il peut y avoir quelques expériences substantielles du corps, des petits moments de fraîcheur dans la colonne vertébrale, quand on fait tummo, etc. Parce que tummo, c'est pas juste faire fondre la neige, hein, comme au Tibet, ça c'est vraiment Walt Disney, hein. On va dans la neige parce que si on ne pratique pas, on meurt de froid. Mais ce n'est pas l'objet de tout mot. Le tout mot, c'est la grâce. Si on se laisse embraser par le désir, amour, charité, et finalement la grâce vient. Les chrétiens, ça, ils sont très forts pour ça. Thérèse d'Avila, Saint Jean de la Croix, et tu te laisses envahir, embraser par le feu de l'amour, d'accord, et ta grâce, mais avec température. Si pour monter à 50 degrés, on se fond dans la neige, tu peux griller les plombs, hein. D'accord, ça ne sert à rien. Ce n'est pas des performances de résistance au froid comme on fait maintenant aujourd'hui, quoi. Donc cette félicité est associée à la vacuité, parce qu'on touche le continuum de notre être, le continuum qui a toujours été présent, primordial, inné. Voilà. La raison va pouvoir ouvrir le cœur. Là, on dit souvent l'alliance du cœur et de la raison. On va pouvoir ouvrir le cœur, contrairement à ce qu'on pense. Les gens opposent beaucoup le cœur et la raison. Alors, il faut faire le choix l'un ou l'autre. Non, on combine, c'est co-émergent. Plus on fait usage de la raison, plus on respecte notre être. Et donc, c'est le respect qui fait que la grâce vient. Jinlap. Le tibétain Jinlap, ça veut dire, Jin veut dire don, et Lap, vague. Une vague de don, une vague de grâce, ça peut se faire par vague, subreptice, ça peut se faire tout en douceur, longueur, Et c'est un respect de mutualité. D'accord. Ce terme Jinlab, c'est un respect de mutualité de vue. Si on arrive à voir la vue qu'ont les êtres éveillés, c'est ce qu'on essaie de faire, et bien il y a comme un système de vases communicants. C'est non pas comme les jansénistes qui disent la grâce, c'est finalement c'est Dieu qui décide à la fin. C'est pas les Bouddhas non plus qui décident à la fin. D'accord. C'est une situation d'identification de nature.
Je comprends pas ça.
Oui, je sais, c'est pas facile à exprimer. Et si on développe la vue de la vacuité, et finalement on arrive à cette vue de la vacuité, on arrive à ce que voit, on voit ce que voient les êtres éveillés. D'accord. Donc il y a une communion, si j'ose dire, de vue, mais ce n'est pas un Bouddha qui dit « Tiens, super, je vais t'envoyer la grâce. » La grâce est de notre ressort par l'effort d'arriver à cette communion de vue. Vous me suivez ? Un respect, une mutualité, une similitude, ce qu'on appelle yoga, une union, une indifférenciation. Ce n'est pas une union, comme je disais une fois à Luce dans le Guru Yoga, ce n'est pas un porno, on est en union avec son lama. Surtout si vous visualisez un lama de la lignée, quoi, ça fait porno, quoi. Donc, je dis, c'est des gens qui prolongent leur désir d'attachement, quoi. Et ils appellent ça dévotion. Le truc, c'est qu'il y a une similitude, on arrive à une similitude. Donc on voit ce que les Bouddhas ont vu. Et vient l'apogée, l'alpha et l'oméga se rejoignent. Et finalement, ça redescend au cœur. Comme dans le yoga des cinq éléments. Dans le yoga des cinq éléments, on place le tigre blanc de l'élément eau au cœur. Blanc parce qu'immaculé, on retrouve notre nature immaculée, etc., sans discrimination, sans dame-tog, sans soif, sans ignorance. Et ça a un fonctionnement de grâce. Dire c'est le symptôme que la vacuité est réalisée, et ça s'appelle l'union de félicité-vacuité. Dire cette félicité n'est plus une expérience, elle est le symptôme, la preuve, ce qu'on appelle un numen, dans notre tradition ésotérique, le numen, la preuve, le siddhi en sanskrit, l'accomplissement. Le siddhi, ça veut dire démonstration. C'est la démonstration que la vacuité a été réalisée. Ça s'appelle siddhi. Numen. Il y a différents numen, siddhi, qui fait qu'on a obtenu quelque chose. La première félicité est un siddhi. Et donc on est un siddha en sanskrit. C'est un drup, c'est un expérimenté. Après, c'est la réalisation qui compte, bien sûr. Et mahasiddha, c'est qu'on est un expérimenté réalisé. Chandrup, mahasiddha. Vous connaissez ces termes. Siddha vient de siddhi. Des fois, on peut être un drupla. C'est un titre que certains lamas donnent à des gens qui n'ont pas particulièrement fait de retraite. Ce sont des drupla. Là, c'est honorifique des expérimentés qui auraient la capacité d'enseigner. C'est pour ça qu'on n'est pas une élite, quoi. C'est réservé à tel enseignant. Bon. Si on est accrédité par un lama qui confirme, oui, c'est un drupla, ben, il peut enseigner. Drup, expérimentation, expérimenté. Et en sanskrit, siddhi. Si on a des siddhi, on peut transmettre cette expérience. Et le siddhi sublime, bien sûr, c'est l'éveil. Est-ce que ça va, les quatre félicités ?
Oui.
D'accord ? Donc des fois, on peut reconnaître une expérience, c'est bien d'identifier pour justement passer outre, pas saisir l'expérience. Saisir l'expérience, c'est un obstacle, ce qu'on appelle un obstacle. Et les obstacles, ça veut dire qu'on médite bien. Mais le danger de l'obstacle, c'est refuser de voir c'est un obstacle et s'en tenir justement à l'expérience. Et je suis arrivé à quelque chose.
D'où l'intérêt d'avoir un lama qui va nous penser ces choses-là, il faut vraiment pouvoir en parler. Parce que sinon...
Ben, c'est le but du lama, c'est un instructeur. Hein.
Ouais.
Il instruit, et même si lui-même n'a pas d'expérience, parce qu'on peut avoir telle expérience et pas d'autre. J'ai rencontré des lamas, ils m'ont dit ça, je n'ai pas cette expérience d'avoir un autre lama. Et bien sûr, c'est la base de l'instruction, c'est d'avoir un instructeur qui soit se réfère au texte, soit il se réfère à la compréhension qu'il a de la vue, soit se réfère à son expérience, et l'expérience que la personne va parler n'est pas logique à la vue. Ça peut suffire, c'est ce que propose Sakyamuni. Ce qui n'est pas logique est faux, au niveau validité de la réalisation de la vacuité. Ce qui n'est pas logique, logique à la vue de la vacuité. Si quelqu'un vient me voir, dit voilà, j'ai eu la réalisation de Manjushri, donc Manjushri m'a parlé, etc. C'est pas logique. Et s'il me dit, voilà, j'ai eu la vision de Manjushri, donc mon Kirin s'est bien établi, j'ai eu la vision de Manjushri, de divinité, là c'est logique, à la vue de la vacuité. Donc il n'y a pas besoin d'être expérimenté. Ensuite, si on est expérimenté, bah, c'est encore mieux. Et si on est réalisé, c'est encore mieux pour pouvoir répondre. Mais pour l'élève, ça ne change rien. Il faut respecter la réponse. Si on pose une question, quel que soit le niveau qu'on prétend au lama, il faut s'en tenir à respecter cette réponse, c'est-à-dire la vérifier. Merci, vous me dites ça, je vérifie. Si vous le prenez pour argent comptant, vous ne respectez même pas Sakyamuni. Vous ne respectez pas, vous ne respectez personne. Donc pas de respect, pas de grâce à un moment. Moi j'ai insisté pour une chose par exemple, avec la Matenda en retraite, quand je souffrais une maladie, ça faisait mal, etc. Et puis j'allais le voir, qu'est-ce que je peux faire? Bon, méditer la vacuité de la souffrance. Essaye. Et puis, j'y arrivais pas. Quoi. Puis je revenais, j'y arrive pas, vacuité de la souffrance. Après il me donnait un mantra spécial de Chadopa, que je savais pas trop ce que c'était réciter un mantra à l'époque. Et puis à un moment j'ai insisté, j'ai dit non. Je suis venu un jour, j'ai dit écoutez, je me suis établi dans prendre la souffrance comme ça, l'établi comme objet, mais la souffrance n'est pas une illusion. Non, je suis désolé. Si, méditez. Alors il y avait la traductrice qui était là, bien sûr. Et j'ai insisté, hein, j'ai dit. Et point sur i, qui a aidé la traduction, la traductrice, peut-être. Et à un moment, il dit oui, c'est vrai. Donc des fois, c'est ça qu'il faut insister. Et après vérification, oui, c'est vrai. Et après, il m'a dit. Mais dites, je souffre est une illusion. Et là, j'y suis arrivé. Vous voyez? C'est très différent. On n'implique pas l'illusion de la souffrance. Ce serait stupide. C'est bien éprouvé. Le degré d'épreuve, effectivement, c'est question de perception. Hein. Même à l'hôpital, on dit, vous souffrez entre 1 et 10. C'est très relatif. Hein. D'accord. Mais n'empêche que tu éprouves. Donc, moi, j'étais en but à ça. Mais non, la souffrance n'est pas une illusion. Je souffre. Ah, ça y est, ça m'a. Intellectuellement, ça me semble plus logique. Tu retournes, effectivement, le « je » qui s'attribue destinataire de la souffrance, il y a bien un « je », c'est pas l'autre qui est en train de souffrir ma souffrance, il y a bien le sujet, d'accord ? Mais comme destinataire de la souffrance, et ainsi de suite. Et à un moment, bah, tu chopes cette félicité, c'est pas la félicité vide, mais une félicité d'être libre d'une anecdote que tu mets sur « je suis victime, destinataire d'un signal physiologique ». Et tu vois bien la distinction. Alors c'est marrant parce qu'il y a eu un gros fou rire, alors qu'il y avait la souffrance continuait sur le corps, mais il y avait bien une distinction, un discernement. L'information qui s'affirme comme un message qui doit être compris comme souffrance, parce que sinon c'est dangereux, hein, et le jeu qui ne se prend pas pour la victime. Et bien il y a une petite félicité, une petite libération, etc. Et c'est toujours l'appropriation du jeu avec son antoc. Mais ça ne veut pas dire que tout est une illusion. C'est les attributions, les imputations qui sont illusoires. C'est pour ça que j'insiste beaucoup. Donc bien demander toujours à vérifier qu'est-ce que vous entendez, machin. Méditez par respect. Et puis par respect, vous revenez, ben écoutez, non, j'y arrive pas, je ne suis pas d'accord. Ou alors, si j'y arrive pas parce que j'ai des difficultés pour méditer, c'est autre chose. Mais si on arrive à se concentrer, on devrait pouvoir vérifier. Bien sûr. Si on a des difficultés, ben, j'y arrive pas à votre truc, vous n'avez pas autre chose pour que je souffre pas, non, là ça va pas. Je veux dire, ben, commencez par vous concentrer, après on verra pour autre chose. Mais prenez aussi un médoc, hein, pour pas souffrir, ça, c'est bien. Mais de temps en temps, c'est bien d'avoir un peu de douleur, hein, pas besoin de souffrir beaucoup. Moi je souffrais beaucoup.
Moi j'ai beaucoup travaillé là-dessus, à titre personnel, parce que ça m'intéressait. On confond souffrance et douleur.
Et oui, c'est ça.
Pas du tout la même chose.
Voilà.
Tu peux. La douleur, à mon avis, hein, la douleur, c'est intrinsèque, hein, quand on a mal. La souffrance, t'as une dimension intellectuelle, émotionnelle.
Oui.
C'est là-dessus que tu peux travailler.
Oui, tout à fait. La douleur sera là. Le karma pas à l'hôpital, il prenait des antidouleurs, etc. Après, on minimise. Lama Yeshe, qui a vraiment un sida expérimenté, hein, etc. Lama Yeshe Gelupa nous avait écrit en retraite et dit pratiquez tant que vous n'êtes pas malade. Et il était sous morphine, etc. Il devait avoir un moine qui faisait sa récitation de texte pour garder au moins sa maya, etc., etc. Et puis sur la fin, il a demandé de diminuer, quoi, pour avoir une certaine lucidité. Donc effectivement, il faut bien faire la distinction entre souffrance et douleur. En tout cas, bon, ces mots sont synonymes, donc on va utiliser des conventions. Mais tu as raison, elles sont valides, ces nuances. Il faut bien faire distinction, et je vais même affiner, douleur et dukkha. Douleur, c'est une information physiologique qui vient à notre esprit, et heureusement, on conçoit justement, s'il y a douleur, c'est qu'il y a maladie. Donc c'est important, c'est un symptôme. Et dukkha, c'est de l'ordre moral. C'est le mal-être. Le mal-être d'avoir des douleurs. Le mal-être d'être impuissant devant cette douleur. Donc c'est de l'ordre moral. D'accord ? Tout simplement. Voilà. Pas confondre dukkha avec douleur. Le mal-être moral de se voir vieillir n'empêche que tu auras des douleurs. Un Bouddha a des douleurs. Sakyamuni avait des douleurs du rhumatisme. Alors que si tu dis la vieillesse est souffrance, et on fait un amalgame, donc les douleurs de la vieillesse, les souffrances, et si je me libère, il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus de dukkha. Donc il n'y a plus de rhumatisme. Et il y a beaucoup de gens qui croient ça. Hein. Comment ça, il est malade? Non, mais c'est un grand être, il se met malade pour montrer aux gens. Non, le Karmapa avait un cancer, le 16e Karmapa avait un cancer. Mais non, c'est pour montrer aux gens l'impermanence. Mais lui, Bouddha, il n'est pas malade. Tu vois, des délires comme ça. Là, c'est vraiment des namtos. Quand je disais, il y a 25 ans de ça, Shugan Trungpa est alcoolique, il est mort d'une cirrhose. Mais non, c'est un Bouddha, c'est un être éveillé. On n'en sait rien. Déjà. C'est un Bouddha, donc il ne peut pas être alcoolique, il ne peut pas avoir une cirrhose. Mais si tu bois de l'alcool, tu as une cirrhose. Et c'était un blasphème que je faisais. Non, il a souffert d'une cirrhose, machin, il a souffert d'alcoolisme, ou alors il est alcoolique par plaisir, je m'en fous, ce n'est pas un procès d'intention. Il ne faut pas se voiler la face. Quoi. Donc il faut bien nuancer douleur, les bobos, qui sont une information nerveuse, physiologique, qui permet à la psyché, la conscience, de considérer qu'il y a une maladie et donc il faut soigner. Et dukkha, c'est un peu la même chose, mais c'est de l'ordre du mal-être, de l'ordre moral. Donc si on a un mal-être moral vis-à-vis de la vieillesse, ben, c'est un symptôme qu'il va falloir soigner son rapport avec la vieillesse, se voir vieillir, et après on peut s'en libérer. Et donc le dukkha, j'appelle ça la double peine. On est déjà malade physiologiquement parlant, et on se fait un dukkha, on souffre d'être malade. Vous voyez, cette double peine. On peut se libérer de ça. Après, on ne peut pas se libérer de la douleur physique, sauf bien sûr avec un peu de morphine. Des fois, la concentration, effectivement, on se concentre, il n'y a plus le « je, j'ai mal », mais n'empêche, la réalité physiologique, elle est là. S'il y a une lésion physique, pas une gangrène qui se fait, tu ne vas pas t'en sortir comme ça. Ça ne met pas fin au mécanisme physiologique de la méditation. Il faut mettre beaucoup de réserves, comme dit le Dalai, la méditation guérit. Ça, c'est les charlatans, c'est les arnaques, il faudrait les mettre en prison. La méditation permet d'avoir une sérénité face à la douleur, et aussi un discernement face à la douleur. Par exemple, se soigner, c'est un discernement, tenir compte, machin, etc. Donc effectivement, tu as tout à fait raison de faire la nuance entre douleur et souffrance, dire l'aspect physiologique qu'on appelle douleur, et souffrance qui est l'aspect moral. Le mal-être, et qui fait la double peine. Déjà, c'est vieillir, c'est pas sympa, bien sûr, mais souffrir de vieillir, c'est horrible. On a les inconvénients de l'âge, déjà une chose, mais souffrir de vieillir, c'est au niveau mal-être, voilà, c'est ce qu'on appelle un dukkha, les contrariétés existentielles. En tout cas, la mort n'est pas une contrariété existentielle en soi, mais si la mort renvoie à un dukkha, à une contrariété existentielle, ça veut dire qu'il y a un problème de lucidité, d'intelligence vis-à-vis de la mort. Si la mort renvoie à un dukkha, c'est qu'il y a une illusion. De l'ignorance, de l'illusion, de la discrimination, la soif, la saisie. C'est comme ça que ça devrait s'énoncer. Si la maladie renvoie à un dukkha, c'est qu'il y a un problème, une illusion, et ainsi de suite, une soif, une saisie. Si la vieillesse renvoie à un dukkha, et ainsi de suite. c'est un lien de condition et de cause et effet. Donc, s'il y a une condition où la mort nous renvoie à un dukkha, c'est qu'il y a un problème. C'est ce qu'énoncent les deux premières nobles vérités. S'il y a dukkha, c'est qu'il y a illusion. Mais ce n'est pas fatal, puisqu'on peut se libérer de dukkha. Mais on ne peut pas se libérer de mourir d'un corps physique. Sakyamuni n'a jamais pu se libérer de la mort physique. Et là aussi, si on entend la mort est souffrance, est dukkha. Ensuite, c'est une illusion. La mort est une illusion. Mais ce n'est pas une illusion. C'est « je meurs » est une illusion. Et si l'autre entend « ah ben c'est une illusion la mort, hein, on peut s'éveiller puis on ne meurt plus alors. » Vous voyez ? Ben des gens qui ont ce projet. Et là, ils se plantent. D'accord ? Vous voyez là ? Donc, c'est très important de bien traduire, de bien énoncer, commenter, etc. Ben, dans New Age, t'es éveillé, t'es plus malade. Et si t'es malade, c'est que t'es pas éveillé. Un truc comme ça.
Mais ça, c'est une espèce de fantasme d'immortalité.
Oui, c'est ça, c'est ça. C'est l'angoisse de la mort. Donc on remplace l'éveil par... Enfin, l'éveil va être l'instrument de nos angoisses. Ou même renaître, c'est pas bien. Donc je vais m'éveiller pour plus renaître. Et des choses comme ça. On peut venir sur Terre. La Terre, c'est samsara. Des choses comme ça. Et là, c'est des postulats qu'on portait... Alors, porte-pièce, quoi. Voilà.